Interview.
1 Interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Martine et Rémi Legault, des amis de Valcroissant, qui sont venus annoncer à la radio un été en musique à Valcroissant. Ça fait un certain nombre d'années que cette association organise des concerts dans ce magnifique écrin de nature. On y reviendra plus tard, mais je vais vous faire un bref résumé de ce qui vous attend à l'abbaye de Valcroissant cet été. Le 20 juillet, Stabat Mater de Boccherini, de la musique classique. Le 27 juillet, de la musique renaissance avec le voyage d'un tambourinaire au 15e siècle. Le 14 août, de la musique romantique avec du Chopin et du Liszt au piano. Et le 17 août, de la musique baroque anglaise avec The Theatre of Music. Martine et Rémi Legault, bonjour.
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 Alors avant de commencer par le programme, parce que ce serait trop rapide de se cantonner à cela, je vous propose de faire un petit historique de cette magnifique abbaye de Valcroissant. Je pense que monsieur Legault, vous en savez un petit morceau.
Oui, l'abbaye de Valcroissant, c'est une abbaye cistercienne fin 12e, fin 13e, puisqu'on dit que chez nous, il faut un siècle à peu près pour faire une abbaye. Cette abbaye a eu une histoire religieuse pas très importante, parce qu'elle n'a jamais eu un très grand développement, elle a toujours été pauvre, aimée, et finalement, elle a subi aussi les troubles de l'époque, notamment les guerres de religion. Vers 1400, elle a été ravagée par Raymond de Turenne. Ensuite, en 1450, ça a été le régime de la commande. En 1521, Luther est déclaré hérétique, vous voyez, est excommunié, ce qui va entraîner des guerres de religion tout à fait violentes. Et en 1568, avec un effectif de moines extrêmement réduit, puisqu'il ne restait plus que 2 moines à cette époque-là, l'abbaye de Valcroissant subit des dommages dits irréparables. La ferme est dévastée, les voûtes de l'église sont effondrées, le dortoir des moines, la cuisine, et puis peut-être d'autres dépendances qu'on ne connaît pas. Et passé ces jours de guerre, les paysans, par obligation, mettent le bétail dans les ruines, ainsi que les récoltes, pour sauver ce qui est sauvable. Et 30 ans s'écoulent jusqu'au fameux Édit de Nantes en 1598, qui permet aux moines de revenir quelques années après, et de tenter de rénover la vie monastique de 1640 à 1670, mais sans succès. Et finalement, cette abbaye va rester donc une simple ferme, avec un abbé commanditaire jusqu'à la Révolution. Et 3 ans plus tard, l'abbaye de Valcroissant est vendue aux enchères par la ville d'Audy comme bien national. Voilà. Elle tombe dans le domaine privé, elle est achetée par 5 habitants d'Audy au début, puis par la suite, elle appartiendra à un riche négociant, qui va rester assez longtemps à Valcroissant, mais va devoir à son tour revendre le domaine, et ça sera revendu au pasteur de Hauteville, un pasteur d'Audy, très estimé dans la région, qui voulait faire un orphelinat dans les murs de l'abbaye. Malheureusement, des problèmes familiaux très graves, et puis aussi des problèmes de santé, ont fait qu'il a dû renoncer à son projet et a revendu à une famille d'Audy qui a exploiter le domaine, et finalement, au décès de ces personnes, les enfants ont revendu le domaine au moment du partage, quoi. Et c'est mes parents qui ont racheté en 1951, avec une autre famille d'ailleurs, ils étaient 2. Depuis, disons, les années 75, c'est moi et ma femme qui nous occupons de Valcroissant, et on a eu aussi une chance, c'est de rencontrer André Pitt, qui nous a poussé à faire une petite association, les Amis de Valcroissant, dans les années 1990, et ce qui a permis de faire des travaux pour rendre l'abbaye utilisable, mais on ne fait pas ce qu'on appelle de la rénovation, on remet en valeur des parties anciennes et on les rend utilisables. Voilà.
Alors avant l'époque moderne, je voudrais revenir un peu sur l'ordre. Vous n'avez pas beaucoup parlé des cisterciens. Qu'avaient-ils de particulier ?
Alors les cisterciens, c'est en fait très très simple. Les cisterciens ont été fondés par un moine bénédictin qui s'appelait Robert, et c'était l'abbé de Molaine, où déjà à Molaine, il voulait retrouver la règle primitive des bénédictins. Alors, cette règle primitive a été écrite au Mont Cassin en Italie dans les années 530 par saint Benoît de Nursie, un moine extrêmement célèbre. Et avec le siècle, ce mouvement bénédictin s'était enrichi. Et c'est vrai que un peu l'argent, un peu les demandes de la société aussi, ont fait que petit à petit, il s'était un peu éloigné de la règle bénédictine pure et dure, celle des premiers jours, voyez. Et notamment, ils avaient un peu abandonné le travail manuel, ils déclaraient leurs églises trop somptueusement, ils vivaient trop dans le luxe. Et donc, Robert a voulu retrouver cette règle primitive. Les cisterciens, c'est un retour aux sources, à la règle primitive des bénédictins, tout simplement. Ils ont d'ailleurs le même patron que les bénédictins, saint Benoît de Nursie.
Ceci dit, ils avaient aussi une spécificité, on parle d'eux comme les moines paysans, ils avaient plutôt une option agricole.
Oui, les bénédictins à l'origine, c'était ça, c'est-à-dire que la vie du moine était partagée entre le travail manuel, bien sûr la prière, le travail manuel et les études, à peu près à part égale. Et les moines avaient une autre petite particularité de la rite bénédictine, un moine qui rentrait dans un monastère devait y finir ses jours, donc la stabilité, voilà.
Un autre petit passage sur lequel vous pourriez nous apporter quelques éclaircissements serait la commande. En quoi la commande a-t-elle affecté la vie monastique à partir du moment où elle est intervenue ?
Alors, la commande est arrivée dans les années 1450. Voyez. En fait, c'est le roi de France voulait pouvoir remercier ses amis de services rendus et pour les remercier, leur donner les revenus d'abbaye qui n'étaient plus dirigés par l'abbé commanditaire mais par l'abbé claustral. Au niveau religieux, et l'abbé commanditaire prenait environ les deux tiers des revenus.
Et donc en quoi cela a été préjudiciable à la vie monastique alors ?
Eh bien, c'est vrai que c'est un prélèvement important sur les ressources qui ont fait que pour l'entretien, un peu pour le développement, ça a beaucoup de nuit quand même.
Et puis pour la pureté de leur foi, parce que justement, c'était des gens qui étaient intéressés, non pas par Dieu, mais par les revenus peut-être.
Alors, l'abbé commanditaire, des fois, il était abbé, réellement, et soucieux de la vie spirituelle aussi, mais parfois, ils s'en désintéressaient complètement, quoi. Et c'est vrai qu'alors, pour les moines, c'était une situation qui n'était pas très motivante pour revenir, passer leur vie de prière, pour gagner la sainteté, quoi.
Alors, si on en revient à cette année 1951 dans laquelle vos parents l'achètent, qu'est-ce qui a été réalisé comme aménagement, comme restauration, plus précisément que ce que vous m'avez dit tout à l'heure ?
Oui, alors donc, mes parents ont racheté ce domaine qui était en vente en 1951 avec une autre famille. Et en fait, cette nouvelle autre famille, la famille Tissot, qui va donc exploiter ce domaine jusqu'à l'automne 1967, voyez, et date à laquelle, finalement, suite à des arrangements entre mes parents et d'autres familles, c'est notre famille qui a repris le domaine. Voyez. Et alors, quels sont les travaux qui ont été faits ? Ben, c'était une ferme. On n'avait pas la même pression au niveau touristique, remise en valeur à ces époques. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle le fleurissement qui a été fait durant toute cette période par la famille précédente. Des fêtes aussi qui avaient été réalisées, des rencontres. Et puis finalement, mes parents, par la suite, ont refait des toitures. Alors, pas mal de toitures. Et puis, nous-mêmes, petit à petit, on a suivi un mouvement général de fleurissement, d'embellissement, etc. Et puis après, avec la rencontre avec André Pitt, on a osé à s'attaquer à des travaux plus importants, puisqu'il est venu avec d'abord des jeunes du Greta pour nous aider à faire des travaux. Et puis ensuite, on a pu avoir des subventions pour remettre en valeur le réfectoire, la croisée du transept. Ils nous ont aidé aussi pour un peu des abords, quoi. Voilà. Mais le total a été quand même que le travail a été possible.
Et donc maintenant, c'est une abbaye qui se maintient en l'état, quoi. Elle ne se dégrade pas plus.
Elle se dégrade pas plus. Elle se spécialise un peu dans la musique, parce que notre grand réfectoire, c'est une pièce qui a une sonorité tout à fait remarquable pour une musique classique. On a des musiciens qui nous demandent à revenir pour la sonorité de la salle, voyez. D'autre part, assez souvent maintenant, des musiciens qui viennent faire un concert organisent un stage de musique en même temps et se servent de la salle aussi, quoi.
Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Elle a très peu de résonance. C'est donc un son très cristallin et les instruments de musique sont entendus avec une très grande netteté, quoi.
Donc c'était parfait pour effectivement les amis de Valcroissant.
Oui, ouais, tout à fait.
Qui est active depuis, rappelez-moi ?
Alors, ça fait quand même pas mal d'années. Disons que il y a eu des hauts et des bas. Mais enfin, avant, on avait eu le festival des Amis de Valcroissant qui avait duré 4-5 ans. avec les Flores, et puis quelques concerts avec, pour des fêtes de la transhumance, avec André Pitt avant encore, vous voyez. Et depuis 4-5 ans, nous, on a relancé ces concerts, quoi. Voilà.
Pour parler de ces amis de Voix de la Croissance, c'est une association qui possède un certain nombre de membres. Comment pourriez-vous la décrire ?
C'est une association tout à fait ordinaire et tout à fait petite et simple. On a une trentaine de membres. On suit les statuts de la loi 1901. Et on tient notre comptabilité et on fait nos assemblées générales. Pour adhérer, c'est pas très compliqué. Ben, il suffit de le dire un jour d'un concert, par exemple. Et donc, à ce moment-là, la cotisation est de 15 euros et on donne une carte. Voilà.
Et alors, justement, comment choisissez-vous les concerts que vous proposez lors de ces cycles ? Un été en musique à Valcroissant ? Vous y connaissez sans doute en musique, vous avez des connaissances de groupe ou de quintette ou de quartet ou de je ne sais quoi ?
En fait, on choisit de la musique classique pour commencer, donc c'est déjà un choix bien défini. Et ensuite, c'est vrai que nous avons de la chance parce que notre président, Jean Ritter, est un très grand mélomane et voilà, donc il sait vraiment nous diriger sur les concerts à choisir. En plus, ce sont des rencontres un peu occasionnelles, comme François Dumont, par exemple, que nous avons connu à un concert qu'il avait donné à Penlesseg dans un tout petit village. Et nous lui avons demandé s'il voulait venir jouer à Valcroissant, malgré son emploi du temps super chargé, et il a dit OK. Voilà, ça lui plaisait de venir jouer ici. Il est venu l'année dernière et revient cette année avec son épouse, et c'est lui qui nous a demandé de revenir avec son épouse. On a le choix se fait, c'est variable, hein, c'est des occasions, c'est.
Et vous commencez à avoir une petite réputation aussi, peut-être, non ? Vous êtes connu ?
Oui, je pense qu'on est connu maintenant. Voilà, on a Aude Van Acker qui fait partie des musiciens du Louvre et qui aime beaucoup venir jouer à Valcroissant, donc il nous propose des concerts variés avec des thèmes variés, voilà.
Alors justement, pour illustrer ce sujet sur les concerts, un été en musique à Valcroissant, auriez-vous envie de passer un morceau, par exemple, Martine ?
Oui, le Stabat Mater de Boccherini, voilà.
Thank you.
Très bien. Alors revenons maintenant à ce programme. Est-ce que vous pourriez nous faire une description de ce qui attend les spectateurs dans ce magnifique écrin musical et naturel?
Alors le premier concert, c'est donc le 20 juillet. C'est le Stabamater de Boccherini et les dissonances de Mozart. Donc ce concert de l'époque classique sera joué sur des instruments d'époque. Voilà, puisque à cette époque classique, le diapason était de 442. Donc aujourd'hui, le diapason est beaucoup plus haut, ce qui permet à la soprano qui va chanter ce Stabamater de pouvoir le chanter plus facilement. Voilà. Donc le Stabamater, ça veut dire la mère se tenait debout, et c'est la souffrance de Marie au pied de la croix. Voilà, c'est un poème qui a été écrit par un franciscain au XIIIe siècle et qui a inspiré de nombreux compositeurs. C'est magnifique.
Et quels instruments interviennent?
Alors là, on aura violon, violoncelle, alto, plus la soprano. Voilà. Alors ensuite, c'est le 27 juillet, 18h30 toujours, c'est le voyage d'un tambourinaire, troubadour et poète. Alors c'est un concert avec Solène Rio et Domitille Vignon qui vont interpréter donc ces chansons du manuscrit de Bayeux, qui est un recueil de 100 chansons monodiques de la fin du XVe siècle. Alors ce sont des chansons d'amour, de louanges, des refrains populaires, des récits de bataille. Et donc ça sera un concert avec cornemuse, flûte et tambour, vielle à archer, lyre des brachiaux et chant. Alors ensuite, le 14 août, ce sera piano et voix, donc c'est le concert de François Dumont et de son épouse Hélène Kerns. Alors là, c'est un concert qui nous fera voyager de l'Europe centrale avec Chopin et Liszt, à l'Italie avec Bellini, et pour terminer, avec la musique française, François Duparc, Ravel et Gounod.
Alors ça, c'est du piano, hein, si je ne m'abuse.
Alors là, c'est piano et voix. Alors François Dumont est déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, venu l'année dernière, et il nous fait vraiment la joie de revenir cette année, puisque c'est un très grand pianiste qui voyage énormément, du Japon au Canada, en passant par la Chine, enfin, etc.
Il s'arrête
donc,
à Val-Croissant.
Il s'arrête juste un petit peu, une journée à Val-Croissant. Et pour terminer, donc le 17 août, c'est The Theatre of Music. Donc alors là, on retourne musique baroque. Donc c'est de la musique anglaise, musique classique anglaise. C'est un programme qui allie à la fois la musique savante d'Angleterre à la country dance, qui est une musique folklorique. La country dance est une musique folklorique de l'Irlande, de l'Écosse, de la même époque. Voilà. Et donc là, ça sera un concert avec basse de viol, violoncelle baroque, harpe baroque, et on aura également des courts moments littéraires de Shakespeare qui seront lus par Sada Ridi, qui est anglaise. Il faut rajouter le concert du 13 juillet, qui est un concert organisé par Die Cantate, voilà, avec Monique Sirène comme directrice musicale, voilà.
Pour ce faire, est-ce qu'on a besoin de réserver? Donnez-nous un petit peu les détails pratiques. Par exemple, le tarif, est-ce qu'il faut réserver? Y a-t-il un numéro? Y a-t-il un endroit où on peut trouver des renseignements?
Voilà, pour réserver, il est préférable de réserver, surtout pour le concert du 20, pour tous les concerts d'ailleurs. Mais par exemple, pour réserver, il faut téléphoner à Val-Croissant. Donc le numéro de téléphone est le 04 75 22 12 70. Voilà. Le prix des places est de 12 euros, sauf pour le concert du 14 août, où le prix des places, puisque là il y a un piano, sera de 15 euros.
Quelle est la contenance de cette salle? Combien vous pouvez accueillir de gens?
150, mais pas plus.
Et alors en général, c'est rempli?
Alors l'année dernière, on a eu deux concerts qui étaient vraiment très très pleins. Un concert de musique baroque déjà, où on a eu 160 personnes. Et le concert de François Dumont, où là, on a vraiment refusé du monde parce que c'était trop plein, quoi. On ne pouvait pas accueillir plus. Et des personnes ont été obligées de repartir, ce qui est dommage.
C'est dommage, mais ça veut bien dire que ça sert à quelque chose, ce que vous faites. Enfin, vous remplissez un office.
Voilà, j'espère.
Très bien. Eh bien, écoutez, on peut encourager tous les amateurs de musique classique, baroque, romantique et Renaissance, de ne pas oublier de venir vous rendre visite aux dates indiquées, que vous pourrez retrouver sur la page dédiée à cette émission sur notre site Martine et Rémi Lego, je vous remercie d'être passés à la radio et je vous souhaite de bons concerts cet été.
Merci.
Au revoir.
Voilà.
Merci bien.
Au revoir.
Interview. 1 Terre.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.